auditeurs, auditrices, amis celtes et ceux qui vont devenir, bien le bonjour. Jeff au micro, on est parti pour découvrir quoi encore une émission spéciale consacrée à l'univers celte et à pas mal de choses. Alors, comme d'habitude, un petit coucou aux amis de football qui nous écoutent le samedi. Et ben, je vous propose de découvrir quoi aujourd'hui, pas mal de choses. On ira faire un du côté... Oh, 4, 5, 6. On ira faire un petit tour du côté de Stonehenge. Ou du nouveau, suite à la découverte que je vous avais fait, souvenez-vous-en, en 2020, concernant des excavations qui avaient été découvertes. Et on verra un petit peu le pourquoi du comment. C'est une grande nouvelle qui s'est répandue et on a fait pas mal de progrès dans ces recherches, surtout à Stonehenge. Alors, on aura bien sûr, on ira du côté de Marguerite d'Écosse, qui a été quand même la femme de Malcolm III. C'est un grand souverain et un rude souverain écossais qui a épousé, on peut dire, une jolie sainte anglaise. C'était Malcolm III, surnommé Canmore, la grosse tête. On verra ça tout à l'heure et je vous parle de ça. C'était en 1070. Bon, et comme on approche tout doucement de la Saint-Nicolas, eh bien, figurez-vous que dans notre secteur, ici en région et surtout en Wallonie, la Wallonie d'autrefois, alors on ira un peu découvrir nos Nicolai et on verra un peu ce que les anciens pensaient ou vivaient lors de la période de la Saint-Nicolas. Mais en attendant, eh bien, un petit tour du côté de... Eh bien, quoi ? Eh bien, d'un super groupe que j'aime bien, c'est Breza Rock, avec le titre On the Road. Et vous allez comprendre que ça pousse un peu le volume de la cornemuse et de la guitare, au même titre que les Red Hot Chili Peppers. Mais il y aura les Tunnel Weavers après. Et je vous rejoindrai juste après Yogan avec le bal de Lankou. Mais en attendant, voici Breza Rock avec On the Road. Back to my hometown,
advise you from the start. Every single day you will have to think about that. Each and every day until you find some peace of mind. Well, I've been looking to the east, oh, looking to the west. I've tried to find the keys. I swear I did my best, but I cannot find my peace of mind. Round and round, I keep searching all around. Oh yes, each and every day. Round and round, I keep searching all around. Oh, I'm gonna find my way. For the day I die. Listen to me, buddy. Oh, listen to me now. There's no need trying to cheat me. No need in trying to lie, because you see, I'm your peace of mind. Round and round, I keep searching all around. Oh yes, each and every day. Round and round, I keep searching all around. Oh, I'm gonna find my way before the day I die. When I was just a boy, I deserve it all. Never thought it'd be that way. When I was just a boy, I deserve it all. Thought life was just a game. Round and round, I keep searching all around. Round and round, I keep searching all around. I say, round and round, I keep searching all around. Oh yes, each and every day. Round and round, I keep searching all around. Oh, I'm gonna find my way. Round and round, I keep searching all around. Oh yes, each and every day. Round and round, I keep searching all around. Oh, I'm gonna find my way. Round and round, I'll find my way before the day I die.
Thank you.
pardonner pour l'annonce erronée que je vous ai faite. Bon, là, au début, en fait, c'était The Mahones avec Take Me Back. Et ben, vous aurez le Braise Rock après. Et là, il y avait aussi Perry Rose dans Run the Run. Et là, un beau morceau pour rentrer dans le principe de Stonehenge. C'était Steve Lawrence and Hudson Swan avec Spirit of the Glen. Alors, je vous rappelle, Glen, c'est une vallée longue, profonde, une auge où coule un ruisseau. Et on retrouve ce mot non seulement en Irlande, mais en Écosse. Alors, à propos d'Écosse, traversons la Manche pour vous faire découvrir quoi. Ben, souvenez-vous, en 2020, je vous parlais qu'il y avait des excavations qui avaient été mises à jour et on hésitait si réellement elles avaient une origine humaine. Alors, il y a une vingtaine d'excavations. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous préciser que ce que c'était qu'une excavation. Alors une excavation, si vous voulez, c'est l'action de creuser un terrain, ou notoirement pour établir soit une fondation ou un bâtiment. Et une excavation se dit ensuite de deux creux ou du creux du fait que le terrain a été travaillé par l'homme. Voilà. Donc on a découvert des excavations et on ne savait pas si réellement elles venaient de l'homme ou pas. Alors, la vingtaine d'excavations mises en jour, comme je vous l'ai dit, en 2020, près de Stonehenge, dans le sud-ouest de l'Angleterre, bien entendu, a bien été façonnée par l'homme. Parce que des nouvelles analyses le révèlent, et c'est important. Parce que le débat faisait rage depuis plus d'un an au sein de la communauté scientifique. Les scientifiques, ils aiment bien tout ça. Et d'où venaient les vingtaines d'excavations massives? On se posait la question, parce qu'elles avaient quand même un diamètre de plus de 10 mètres et à peu près 5 mètres de profondeur. Et elles avaient été découvertes pas loin de Stonehenge, et peu après leur découverte, eh bien, certains sceptiques niaient, en effet, tout lien entre le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, je vous le rappelle, cet alignement de puits ou de creux. Alors, tandis que les archéologues, eh bien, s'enthousiasmaient de la plus grande structure préhistorique jamais découverte en Grande-Bretagne, d'autres, eh bien, eux affirmaient au contraire qu'il s'agissait, de simples cavités naturelles. Mais des cavités creusées par la main de l'homme, ça a été prouvé, parce que les tests qui viennent balayer ces dernières hypothèses, eh bien, les scientifiques ont montré que ces fossés béants, dont la disposition forme, imaginez-vous bien, un cercle de 2 km de diamètre, était définitivement d'origine humaine et avait été creusé à peu près aux alentours de 4500 ans, à peu près, hein, je ne suis pas à quelques jours près. Et sur une partie du cercle, n'avait pas survécu aux évolutions humaines. Et une équipe de l'université de Bradford, elle, quant à elle, avait analysé scientifiquement 9 des fosses sur les 20, et ce sont toutes les mêmes, a déclaré le professeur Vincent Gaffney, l'archéologue en charge des recherches, qui ont conclu qu'il s'agit bien des plus grandes structures préhistoriques jamais découvertes en Grande-Bretagne. En tout cas, ce nouveau site est 20 fois plus grand que celui de Stonehenge, imaginez-vous. Alors, on sait que c'est des fosses qui datent à peu près de 2400 ans, parce que pour les dater, le docteur Tim Kinhaid, de l'École des sciences de la Terre et de l'Environnement de l'Université de où ? Eh bien, Cocorico, de Saint-Andrew. Je vous rappelle, Saint-Andrew, c'est sur la côte est de l'Écosse, et c'est une université qui a été créée en 1413, et c'est la troisième plus grande université du monde anglophone après celle d'Oxford et de Cambridge. Alors elle fait partie des 20 plus vieilles universités du monde, et l'université s'est régulièrement classée parmi les 3 meilleures universités britanniques. Bon, quand même, vous voyez, l'Écosse quoi. Bon, alors donc, notre ami le docteur Tim Kenwright a utilisé la dosimétrie par luminescence. Oui, dosimétrie par luminescence. Donc, ce qui veut dire que c'est une technologie de pointe qui a permis de dater la dernière fois que le sédiment ou les sédiments ont été exposés à la lumière du jour. Alors, les résultats ont été avancés avec la fosse datant à peu près d'environ 2400 ans. Et il ajoutait que les fosses avaient sûrement été remplies au même moment, insistant sur le fait qu'il ne pouvait s'agir que de caractéristiques, de caractéristiques naturelles, car les fosses sont très similaires. Il s'agit de dolines, par exemple. Eh bien, elles seraient, si c'était ça, elles seraient différentes. Vous savez, les dolines, c'est des trous qui apparaissent subitement un peu partout sur la planète. On se demande ce que c'est d'ailleurs, pourquoi. Alors, il a précisé aussi que les données ont outre montré que les fosses étaient utilisées depuis la fin du néolithique jusqu'à l'âge du bronze moyen. Alors, entre autres apprentissages à la suite de ces découvertes, eh bien, celle-ci tend à montrer, à définir que les premiers habitants de Grande-Bretagne, principalement des communautés agricoles, avaient développé un moyen de compter en suivant même des centaines de pas pour mesurer les fosses, parce qu'elles sont toutes quasiment les mêmes. Elles sont toutes les mêmes. Alors, ces nouvelles données permettent également de se questionner, de questionner la complexité de ce paysage, parce qu'il ne faut pas oublier que Stonehenge est normalement un lieu d'observation, d'après les scientifiques. Alors, on sait que si c'était pensé par rapport au solstice, eh bien, la délimitation des fosses peut avoir une signification cosmologique. Et là, on a encore du travail, et les chercheurs ont encore du travail. Comme quoi Stonehenge n'a pas fini de nous étonner, de garder ses secrets. Tant mieux, tant mieux. Et à propos de Stonehenge, eh bien, pour me faire pardonner de ma bévue de tout à l'heure, je vous propose d'aller sur la route, on the road, avec Brezarock. Et vous allez voir, ça déménage. Alors poussez les chaises, poussez les tables. Si vous aimez vous défouler un petit peu, c'est le moment, parce que le week-end approche, où on y est. Et allez, tout de suite après, il y aura quoi? The Tiny Rivers. C'est aussi un peu rock, mais vous allez voir, c'est beau. À tout de suite. Ah, les Tannahill Weavers, je vous rappelle, un groupe écossais, et j'aime bien parce qu'ils ont énormément d'instruments atypiques comme le bouzouki, où on retrouve le boran, et on retrouve aussi Colin Melville à la cornemuse, et à peu près une vingtaine, non, une 17-18 albums à leur actif. Bon, si vous me permettez, on va faire un petit saut du côté de la Grèce antique, et pour aller où? Bah, du côté de Patard, parce que Nicolas de Myre, ou Nicolas de Bari, communément connu sous le nom de Saint-Nicolas, est né à Patard, en Lycie, vers 270 et est mort à Myre en 343. Alors, il a été évêque de Myre, en Lycie, bien sûr. Il a probablement participé au premier concile de Nicée, auquel il combattit l'arianisme. Bon, c'est peut-être pas la référence, mais qui est Saint-Nicolas? Eh bien, il faut dire que étant évêque de Myre, en wallon, chez nous, eh bien, du côté de la Wallonie, clair et net, eh bien, on dit Nicolai ou Nicolette ou Colas. Et Colas, Nicolai et Nicolette sont des diminutifs de Nicolas. Alors, il possédait la particularité à Liège, trois temples à Liège. Il y avait, faut savoir qu'il y avait la Treste en Lille, ou le Dito 13, si vous voulez. Et il y a eu ensuite la Saint-Nicolas des proches des remparts, des beaux reparts, et Saint-Nicolas aux mouches, à la Bastille pour Réginard, à cause des moucherons qui infestaient la cité, qui déchassit par sa prière en 1030. Donc on a vénéré un peu le patron à ce moment-là. Et on a Nicolas de Lourdes en Meuse-Bastille en 1080. Donc, Saint-Nicolas des Tesles, Saint-Nicolas de la Bastille et Saint-Nicolas aux mouches. Bon, ça fait quand même trois patrons pour la même ville. Alors, du côté de Bouillon, ben, c'est la fête des Michets. Parce que les Michets, c'est-à-dire les bûcherons, donnent une aubade à la statue de Saint-Nicolas qui était placée dans une niche rue du Collège, si les gens qui connaissent bien un peu Bouillon. Puis, ils vont en faire autant chez tous les marchands de bois qu'ils leur remettent de l'argent pour payer les frais de réjouissance publique. Alors la fête s'achève par un banquet fraternel suivi d'un bal. Mais il faut bien vous faire comprendre que ça, c'était jadis. Et du côté de oui, eh bien, il y a une élection du roi des Neveurs, parce que la corporation des nautonniers, c'est-à-dire et des poisseurs, c'est-à-dire des pêcheurs, élisait son roi et qui était choisi devant la place, et en plus il devait se coiffer de la couronne sous peine d'amende, et plus tard précédé du souverain, eh bien elle attendait l'office. Et on a aussi la foire aux amoureux à Arlon, à la Saint-Nicolas. Cette foire se reproduit encore le premier jeudi de janvier, et les jeunes gens viennent faire leurs emplettes pour la Saint-Nicolas des demoiselles. Et ce simple geste a une grande importance, car il équivaut à la publication solennelle des fiançailles. Je ne sais pas si c'est en cours maintenant, faudrait aller voir du côté d'Arlon, mais c'est intéressant à savoir, parce que non seulement c'est des petites fêtes pour les villages qui sont atypiques, mais surtout chez nous, c'est la fête des enfants, parce que nulle fête n'est plus populaire en Wallonie que celle de Saint-Nicolas, car le grand saint est le distributeur des jouets et des bonbons, remplaçant les bonbonnes de Noël, d'origine exotique. Eh bien, Saint-Nicolas chemine toujours suivi de son fidèle serviteur, le terrible et le père Hans Kruff, Jean le Bossu, réplique du père Fouettard. Alors, ce satellite brandit une énorme verge piquante trempée dans du vinaigre, avec laquelle il châtie les gosses, on peut dire, indisciplinés, les mauvais écoliers, les gourmands, les sournois, enfin les mauvais, quoi. Et dès la nuit venue, ben, Saint-Nicolas descend lentement du ciel bleu, parce qu'on a toujours un beau ciel quand Saint-Nicolas descend, avec son grand manteau d'or froid, sa mitre pointue et sa longue barbe blanche et sa crosse de vermeil sur laquelle il s'appuie pour parcourir les toits des maisons de la cité endormie. Et à chaque cheminée, il s'arrête et sur son ordre, Hans Kruff laisse descendre les divers cadeaux, extraits des hôtes inépuisables de son petit baudet, ses petites ânes, bien entendu, gris aux oreilles immenses. Et avant de se coucher, ben, les petits-enfants, on le sait très bien, préparent sous l'âtre une belle grande lettre pour le grand saint. Et dans cette naïve naïve et pitre, ils lui exposent leurs mérites personnels et signent la promesse d'un meilleur et plus sage avenir. Ils donnent aussi la description des jouets, surtout des bonbons qu'ils désirent, près de la lettre portant l'adresse au grand Saint-Nicolas au paradis. Et ils placent un gros paquet de bons tabacs pour Hans Kruff et une botte de carottes rouges pour maître Alibron, c'est-à-dire l'âne. Alors, bien sûr qu'il y a 8 jours avant la Saint-Nicolas, donc c'est maintenant, un peu, chaque soir, on entend un grand bruit de côté de la cheminée. Si des cheminées existent encore, vous pouvez tendre l'oreille chez vous. Alors, des mains invisibles secouent toutes les sonnettes de la maison. La porte de la salle à manger s'ouvre mystérieusement. Et par l'entrebâillement, voici une pluie de noix, noisettes, de figues, de boules de sucre. C'est ainsi que Saint-Nicolas récompense les enfants qu'il évoque gentiment, et notamment avec cette fameuse chanson de Saint-Nicolas. Voilà, Saint-Nicolas, bien, il y a quand même de quoi raconter, hein, parce qu'il y a la foire Saint-Nicolas à Liège. Ça, je vais vous la dire quand même, parce que pendant toute la semaine qui précède Saint-Nicolas, nous avons une foire fort populaire, disait-il, fort animée au centre de la cité à Liège, sur la place du Vieux Marché. Vous savez, c'est cette place où on voit la stèle qui est bien droite, que l'on retrouve à chaque fois, et les échoppes en plein vent se mêlent à celles des fleuristes et des marchands de fruits. Elles s'illuminent dès les vêpres et restent ouvertes toute la nuit, car les bons parents ne veulent et ne peuvent aller aux emplettes que quand bébé s'est endormi, rêvant la surprise que lui fera le grand saint. Voilà, il y a plein de choses comme ça que l'on peut redécouvrir dans nos écrits, et tant mieux qu'on ait encore des écrits de ces choses-là. Et ça, bien, je vous le rappelle, c'est grâce à Michel Elsdorf et Rodolphe de Warsage, qui ont écrit énormément sur la ville et la vie des artisans et de la vie, on va dire, régionale de Wallonie. Et tant mieux, car avec ça, moi, je vous ai fait découvrir un petit mot de Saint-Nicolas. Et moi, je vous propose maintenant, à propos de Saint-Nicolas, de rejoindre aussi un grand personnage, mais du côté de la Bretagne, qui est l'Ankou. L'Ankou, je vous rappelle, c'est le dernier mort de l'année qui fait présage et qui annonce la mort du suivant et vient vous chercher lorsque vous êtes trépassé. Et l'Ankou est un personnage atypique de la Bretagne. Et Jan van Schemener avait fait pas mal de contes et de recherches sur cet être, ce personnage que l'on rencontre encore assez souvent, sinon fais bien attention, mais il vaut mieux pas le rencontrer. Allez, je vous propose d'écouter Yogan avec l'Ankou. À tout de suite. Oh, surprenant. Oui, mais il fallait que je vous fasse la surprise avec le groupe. Oh, vous le connaissez, bien entendu. C'est Omnia avec Epona, suite avec le bal d'Ankou de Yogan. Et je vous rappelle que Yogan a sorti, je crois que c'est 4 albums. Et là, c'est tiré du bal de l'Ankou, qui est sorti en 2004. Un très très bon album et un très très bon groupe. Retenez bien Yogan. Yogan qui, quant à lui, est un groupe vraiment de musique celtique avec un mélange d'Irlande, de Bretagne, des airs de chant marin. J'aime bien ce groupe-là. Il fallait que je vous le touche et que je vous en dise un petit mot. Alors, figurez-vous que depuis un certain temps, je vous fais voyager du côté de l'Écosse. Alors, on sait bien que l'Écosse, eh bien, on est en pleine période, parce que quand on sait qu'un période de quoi, ben, transition, parce que quand un rude souverain écossais épouse une jolie sainte anglaise, eh bien, ça donne quand même des résultats, malgré le côté bourrin de Malcolm III, qui, avec Marguerite, qui est morte en 1993, était la fille d'Édouard l'exilé, c'est-à-dire la petite nièce d'Édouard le confesseur, et est une conséquence de la conquête normande de l'Angleterre. Parce qu'il faut vous rappeler que Marguerite d'Écosse, qui est princesse anglo-saxonne de la maison des Wessex, qui devient reine d'Écosse en épousant Malcolm III, vers l'an 1069-1070, et après la conquête normande de l'Angleterre, elle lui a donné 8 enfants, dont 3 futurs rois d'Écosse. Alors, revenons un peu en arrière, parce que comme on l'a vu auparavant, eh bien, durant tout le règne de Macbeth, en 1040-1057, Malcolm III avait été exilé avec son frère à la cour du roi d'Angleterre, souvenez-vous-en. Alors, il avait appris les coutumes du pays et avait aussi pratiqué la langue anglaise, qui s'était ajoutée à son gaélique natal, je ne vous dis pas le mélange, mais bon. Alors, cependant, depuis qu'il était revenu dans son pays, eh bien, de grands changements s'étaient produits en Angleterre. Le vieux roi Édouard le Confesseur était mort, et Guillaume le Conquérant avait quitté la Normandie pour débarquer dans le Sussex avec une armée forte de 7000 hommes. Et je vous rappelle, Guillaume le Conquérant est parti de Barfleur à ce moment-là. Et donc celui-ci, et Barfleur en France, hein, alors celui-ci était estimé avoir des droits sur le trône du pays qui, depuis peu, était occupé par Harold, comte de Wessex. Et en 1066, eh bien, Guillaume le Conquérant, lui, remporta la fameuse bataille de Hastings et le roi Harold mourut durant la bataille et Guillaume devient alors le roi d'Angleterre. Mais à la suite de cet événement, eh bien, un jeune prince anglais du nom d'Edgar Atheling estima que sa vie était en danger. Alors accompagné de sa mère et de ses deux sœurs, Christina et Marguerite, la future Marguerite, il quitta précipitamment l'Angleterre après avoir obtenu une promesse d'asile chez le roi Malcolm III d'Écosse. Et ce dernier, un souverain énergétique, hein, 35 ans, imaginez-vous la bête, avait récemment perdu son épouse, un prince, même une certaine princesse viking des îles Orcades, dont il avait eu un fils nommé Duncan. Et lorsque Malcolm III arriva avec sa suite pour accueillir les 4 réfugiés anglais, il tomba instantanément, paps, sous le charme de la ravissante Marguerite. Waouh! Ils se marièrent dans les semaines qui suivirent. Je vous dis pas le bazar, hein. Pouf, à peine arrivé, pouf, on se marie. Mais cette union allait entraîner de grands changements, tant à la cour que dans la politique du pays, parce que la grande beauté de Marguerite n'avait d'égal qu'à sa piété. On raconte même que Malcolm avait tellement d'admiration pour la culture religieuse de son épouse qu'il embrassait chaque page de ses saintes écritures qu'elle venait de feuilleter. Alors très vite, la manière de vivre de Marguerite frappa les esprits. Plusieurs heures par jour, elle allait visiter et réconforter les malades. Elle usa également de son influence pour convaincre le roi d'entreprendre la construction d'une nouvelle abbaye qu'elle voulait la plus belle que toutes sur le territoire. Et ce fut celle de Dunfermline. Voilà, j'ai su le dire. Alors, dans un pays, eh bien, on entend l'eau qui sont si présentes, parce que Marguerite décida ainsi que, pour améliorer leurs ordinaires, les monastères des frères et des nonnes pourraient percevoir les revenus des traversées des bateaux, d'une rive à l'autre, des fleuves ou d'un loch. Alors, le loch, je rappelle, c'est ce fameux grand lac. Oui, il y a un super monstre qu'on ne voit pas trop souvent, mais celui qui a de la chance, comme moi, ben on l'a déjà vu plusieurs fois. Non, je plaisante. Mais, en plus de ses actions, la reine Marguerite n'était pas non plus que dévote. Elle s'était donnée ainsi pour mission de faire évoluer la cour d'Écosse en la rendant plus attrayante et tout aussi fastueuse que celle des pays voisins comme la France ou l'Angleterre. Par exemple, elle souhaitait que les dames des compagnies fussent désormais plus instruites, les tissus plus somptueux et les festins plus raffinés. Cependant, au bout de quelques années, la présence à la cour, Marguerite ne parlait toujours pas la langue gaélique du pays et le roi devait traduire pour elle les phrases échangées en public. Alors de plus, pour ses 5 fils, les futurs rois d'Écosse, elle avait choisi des prénoms typiquement anglais. Imaginez-vous des hommes de sa propre famille comme Edgar, Edward, Edmund, même un David. Alors le roi de l'Ancien Testament, bien entendu, et Alexandre, le nom du pape de l'époque, Alexandre II. Et au même moment, les Écossais qui parlaient principalement le gaélique commençaient à murmurer. Les Écossais, ça cause toujours, c'est un peu comme les Gaumais, les Ardennais, ça cause toujours. Alors ils étaient convaincus que l'anglicisation de la cour était en train de devenir très dangereuse pour le pays. Cependant, cela n'empêchait pas Malcolm III d'envahir régulièrement la Northumbrie, cette province frontalière qui se dispute à la fois entre l'Écosse et l'Angleterre. Et pour le punir, Guillaume, le conquérant, décida d'envahir l'Écosse. Alors il força Malcolm à signer en 1072 la soumission de Balnaty. Pour la première fois, un traité stipulait que son pays était vassal de l'Angleterre. Le roi d'Écosse pouvait ton lire était dorénavant considéré comme the king's man, c'est-à-dire l'homme du roi d'Angleterre. Même si ce traité fut annulé quelques années plus tard, il sera par la suite régulièrement utilisé comme argument par les Anglais pour justifier l'annexation de l'Écosse. Et ce fut l'une des 5e raids de Northumbrie en 1093 par que Malcolm fut tué après 35 ans de règne et lorsque Marguerite, bien entendu, apprit la nouvelle, elle fut anéantie. Elle fut transportée dans son lit et demanda qu'une épouse auprès d'elle, que l'on dépose auprès d'elle le Black Lord, c'est-à-dire la couronne ciselée en or que contenait un morceau de la vraie croix du Christ, une relique qu'elle, dans sa jeunesse, elle-même avait ramenée de Hongrie. Mais cela ne suffisait pas à alléger sa peine parce que, terrassée par le chagrin, elle ne survécut que quelques heures à son mari. Et son corps fut placé à côté de celui de Malcolm III dans la chapelle de Dunfermline et elle fut canonisée en 1250. Et si vous avez l'occasion d'aller au château d'Édimbourg, vous pouvez voir le magnifique vitrail qui représente Sainte Marguerite, petite fille des rois d'Angleterre et de Ironside. Elle naquit, comme je vous l'ai dit, en Hongrie vers 1045, alors que ses parents étaient exilés. Alors rentrée en Angleterre, elle dut se réfugier en Écosse, comme je vous racontais tout à l'heure. Et elle mourut à Édimbourg en 1093 et fut canonisée par Vincent IV. Alors allez-y une fois à ce château d'Édimbourg, il vaut vraiment le détour et il y a toujours moyen d'apprendre des choses et de voir des choses. Et si vous avez la chance d'arriver à un certain moment donné lors de l'année, bien précis, vous pourrez voir certaines, on peut dire, entités ou certaines choses un peu étranges, parce qu'Édimbourg, il y a quand même des choses étranges dans cette ville qui est magnifique. Et à propos de magnificence, pourquoi pas faire un tour du côté de l'alchimiste de notre ami Pascal Lamour. Pascal Lamour, je vous rappelle, est le chaman celtique que tout le monde devrait avoir comme CD dans sa CD Tech. Allez, on en écoute un morceau, à tout de suite.
À toi, Ars Maela, qui porte l'obsidienne gravée, signe des druides, je te confie le secret. Il y avait un temple des mystères, Manantan, où étaient préservés les secrets de la puissance cosmique par les prêtres savants. Depuis, les dieux ont soufflé un brouillard sur les yeux des génies, afin qu'ils ne construisent plus de temples consacrés aux humains. Thank you. Kolkata, Etiops, Alembroth, Turbis sont les symboles venus des quatre îles du Nord mystérieux. Par la pierre, par la lance, par l'épée et par le chaudron, la mandragore ceint la parole et évite que le secret soit livré.
N'est-ce pas? Bien, si vous aimez ce genre d'ambiance ou d'atmosphère, c'est le titre d'Alchimiste de Pascal Lamour, tiré de son CD le Chant de la Mandragore, qui Pascal Lamour, je rappelle, avait fait un très beau livre avec le dessinateur Bruce Hérault, l'illustrateur Bruce Hérault. Ça s'appelait À la recherche de la Mandragore, et c'est tout à fait un livre qu'il faut offrir à la personne qui aime un peu les côtés magiques, les côtés un peu druidiques des animaux et de toutes choses. Avec, on parle d'une druidesse, etc. Les dessins sont splendides et je vous le conseille, moi. C'est vraiment un magnifique album qu'il faudrait avoir dans sa bibliothèque et dans sa, même c'est au pied, sur sa table de nuit, c'est mieux. Allez, il est l'heure de se dire un Kenavo, Kenavo Avechal, Kenavo Ndistro. On se retrouve la semaine prochaine. Là, je vous propose de découvrir encore un groupe écossais, c'est Olam. Alors, je vous épelle le mot parce que c'est O3LAM. Voilà, O3LAM, O-L-L-L-A-M, parce que c'est un groupe que c'est The Bell, donc la cloche. Et vous allez entendre, ça vaut vraiment la suite de Pascal Lamour. C'est vraiment des artistes de grand talent. Alors, partagez le bonheur autour de vous, soyez heureux, faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, ben, portez-vous bien. Kenavo, Kenavo Avechal, Kenavo Ndistro à tous, à la semaine prochaine.